Marc Defoy se joint à nous. Salut, Marc.
Salut, Ron.
Marc, on va régler quelque chose avec Petit Trot, puis l'autre, là, puis tout ça, là, puis Grand Galop, puis c'est ça. David Sampson, l'ancien propriétaire des Expos, l'ancien propriétaire des Marlins de la Floride. Lui, il fait de l'argent à tous les places. Tous les endroits où ce qui passe, il a fait deux faillites dans sa vie à part de ça. Il fait toujours de l'argent. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Puis il est toujours dans le caca. Toujours dans le caca, fait de l'argent, vend du caca, revend pas de caca, mais il a le caca. Puis là, il se permet maintenant qu'il est riche, comme Crésus. Là, qu'est-ce qui arrive avec lui? Là, il se présente dans une soirée quelconque, puis il dit quoi?
Ben, c'est une émission de radio là qu'on peut capter c'est sur le site web de ESPN, le site social Reddit. Et il faut dire que l'animateur, déjà en partant, l'animateur de cette émission-là, Dan, il y a un drôle de nom d'ailleurs, c'est son vrai nom, là, Dan Le Bâtard. Qui est originaire de Cuba, mais qui a déménagé aux États-Unis très jeune. Lui-même, c'est un journaliste controversé. Il fait dans la controverse.
Okay.
Donc, hier soir, à Miami, il y avait une émission en direct et à laquelle David Sampson a participé. Et à un moment donné, les gens l'ont hué à son arrivée. Est-ce que c'est... Là, on semble dire que c'était monté. C'était une pièce montée. Mais bon, quand même. Mais à un moment donné, David Sampson, on dit qu'il était un peu pompette, a dit aux gens, les gens le huaient, et il leur a dit, écoutez, on a 1,2 milliard de bonnes raisons de vous dire, allez vous faire foutre. Et il a montré l'index aux gens.
Oh.
Parce que là, on le sait que, les Marlins, il y a un an, un peu plus d'un an, Jeffrey Loria et David Sampson ont vendu les Marlins à un groupe qui comprend notamment Derek Jeter pour la coquette somme de 1,2 milliard. Et on se rappellera que nos deux snoros avaient payé les Marlins 158 millions après avoir vendu les Expos au baseball majeur pour 120 millions. Donc, tu t'imagines le profit, là. Et c'est pas sa première bourde à David Sampson. Lui avait dit ouvertement à un moment donné, et ça avait été repris parce qu'il pensait que... Je pense qu'il pensait pas... Il y avait un journaliste de la salle qui avait capté sa déclaration. Il avait dit à un moment donné, il avait traité les citoyens de Miami, les législateurs de l'hôtel de ville et de l'État de la Floride, de cabochon pour avoir donné, pour avoir financé la construction du Marlins Park.
Aïe.
Donc, il n'en est pas à ses premières frasques, là. Mais là, hier, on dit que c'est une blague. Il participait, c'était
ouais, un genre de. Ouais, genre d'émission.
Mais
ouais.
Est-ce que, quand on connaît le passé du bonhomme, et quand on voit ça, c'est pas brillant, là. Donc, à quelque part.
Il y a du Donald Trump dans le derrière. Il y a du Donald Trump dans le derrière. Tu sais?
Pas mal.
Tu sais, il y a du Donald Trump. OK. On verra bien. Il deviendra peut-être le prochain président des États-Unis. Parce que tu ne sais jamais ce gars-là. Tu sais jamais David Sampson. Écoute, ouais, c'est ça. Écoute-moi bien, mon ami Marc. Juste un petit commentaire de même. Une rivalité. Tu étais au match. Une rivalité. Canadien-Boston, tu les as connus, toi, ces belles rivalités-là, depuis plus de 40 ans. Et là, il y a une équipe qui se présente pas. J'aurais préféré que ce soit Boston, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu le Canadien ne pas se présenter dans ce genre de match, même à Boston. Je comprends pas, là.
C'était incroyable hier. D'abord, du côté des Bruins, Patrice Bergeron est absent. Zdeno Chara a beau ne plus être le même joueur. Il a quand même encore son utilité. Ouais. Donc, les Browns se présentent à Montréal avec deux joueurs en moins. Il avait subi un revers la veille. Ouais. Il avait joué la veille contre Buffalo. Ouais. Il avait subi un échec de 4-2. Arrive ici et le Canadien ne se présente pas. Écoute, la première période, là, on peut dire sans se tromper que c'était la pire période du Canadien cette saison.
C'était affreux.
Mais écoute, après 7 minutes, on est allé consulter le site des statistiques de la Ligue nationale. Le Canadien avait commis 11 revirements après 7 minutes.
Il y en a au total 14 dans la période. Oui, c'est ça.
Oui.
C'est ça.
Écoute, sur le but, là, le premier but des Browns, c'est Riley, je pense, qui fait. Non, c'est Chaput. C'est Chaput qui fait la passe en plein milieu, en plein centre de la zone du Canadien. Ensuite de ça, Thomas Tatar a fait deux revirements sur le même jeu. Écoute, moi, je comprends pas ça. Ils se sont pas présentés, pas du tout. Puis pourtant, les conditions étaient là. C'est-à-dire, le Canadien venait de remporter deux victoires après sa sévère défaite la semaine dernière au Minnesota. Remporte deux victoires, va chercher deux matchs qu'il devait aller chercher, qui étaient à leur portée, contre les Hurricanes, les Sénateurs. Ça se présente bien. C'est le dernier match de l'année 2018 à Montréal. Le Canadien quitte pour un long voyage. Là, tu te dis, il faut que tu en sortes une grosse ce soir là, avant de partir. Là. Ils étaient même pas là. Ils ont pas été là de la soirée. À part peut-être 5-6 minutes en deuxième période, là, lorsque les Browns amenaient 1-0. Mais c'est une performance franchement là, épouvantable. Puis on a vu Brendan Gallagher, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on a vu Brendan Gallagher à la fin du match se diriger vers le filet du Canadien et fracasser son bâton sur un poteau. Et je pense qu'il a dit après le match ou aujourd'hui que c'était probablement la pire contre-performance de sa carrière. Même lui n'était pas allumé. Hein. Brendan Gallagher, il faut le faire. Là. Il n'était pas allumé lui-même. Il n'y avait personne. Hier, peut-être à part Price, là, je sais qu'il y a encore des gens qui le critiquent. Là, mais si Price, hier, là, ça aurait pu finir 8-9-0. Là.
Ouais.
Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Là. C'était pitoyable. C'était franchement pitoyable comme effort. Et moi, je suis retourné hier, souvent maintenant, je prends le métro, j'utilise le métro pour me rendre au Centre Bell de la Rive-Sud parce que c'est plus facile. Et après le match, j'ai quitté tout de suite après le match. Et je peux te dire que les gens là, qui étaient là, là, il y avait plusieurs chandails du Canadien, les gens étaient franchement déçus là, de ce qu'ils venaient de voir. Les autres, ils étaient présentés au match en se disant « Hey, pense que ça va être bon ce soir. Un match contre Boston, le Canadien a le vent dans les voiles, part en voyage, il faut qu'ils mettent la table pour un bon voyage. » Puis là, ils arrivent là, ils n'ont rien eu à se mettre sous la dent. C'était zéro.
J'ai une question à te poser, mon ami, comme ça, parce que, étant donné que toi et moi, on échange souvent sur des sujets comme ça, c'est rare qu'on se prépare. Puis, parce qu'on n'a pas à se préparer, on avance des choses. J'avance que Scott Gordon est à son premier match avec les Flyers comme entraîneur.
Oui.
Pour ceux qui n'ont pas connu Scott Gordon, c'était un gardien de but. Il a goalé pour les Nordiques de Québec.
Oui.
Alors, Scott Gordon, c'était un gardien de but. Qui était là avant comme directeur général? Ron Extall, un gardien de but.
Mm-hmm.
Qui est gardien de but puis qui a un poste quand même important dans la Ligue nationale? Jim Rutherford. Qui est gardien de but, directeur? Ken Holland. Qui était gardien de but puis était directeur? Gart Snow. Qui fait de la radio puis de la télé? Lalime, Mac Denis, Kelly Rudy, Mac Denis, tout ça. John Garrett. Qui était avant aussi, dans mon temps à moi, Emile Decat Francis, Eddie Johnston, dans l'ancien temps? Les goalers, c'est-tu parce que c'est les goalers? Patrick Roy. Les goalers. Ben, maintenant, notre ami Martin Brodeur. Les goalers, il y a quelque chose, les goalers. Il y en a dans l'organisation du Canadien aussi. Dans l'organisation du Canadien, il y en a au moins un ou deux aussi. Là. Ça va me revenir. Je parlais avec un il y a deux semaines.
Sean Burke.
Oui. Alors, les goalers, il y a quelque chose. Et selon Mac, deux fois, c'est quoi l'affaire? C'est-tu parce qu'ils sont plus smart au niveau hockey, au niveau stratégie, au niveau... Ils ont-tu plus de... Je vais utiliser un terme là pour pas choquer personne. Plus d'éducation à ce niveau-là, éducation au hockey, connaissance au hockey. Comment tu vois ça? Mike Liotte a toujours été dans son livre en train d'étudier. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a des gardiens de but qui ont des postes importants depuis bien longtemps au niveau...
Je vais te faire un parallèle avec le baseball, Ron. Il y a beaucoup d'anciens receveurs qui deviennent gérants.
C'est ça!
Donc,
c'est ça.
Ce comprends. D'abord, on dit que ce sont de bons étudiants de la,
oui,
du jeu.
Oui.
Parce que de leur position, eux, ils voient tout devant eux. Là.
C'est ça.
Ils voient tout devant eux. Hein? Je pense pas me tromper en disant
c'est ça.
Rappelons-nous Jacques Plante. Jacques Plante a fait un an avec les Nordiques comme entraîneur-chef et directeur général. Ça a été un flop monumental. Mais lorsqu'il était analyste à la télévision, oh, attention, il était toujours, ouais. ses commentaires étaient toujours
ouais.
à point.
Ouais.
Et Jacques Plante, M. Plante s'exprimait d'un excellent français.
Oui, ouais, je comprends.
On dit que c'est des gars, bon, qu'ils ont une vision du jeu différente de tout le monde.
Ouais.
Parce que eux, lorsque le jeu se déroule à l'autre bout de la patinoire,
ouais. Ouais.
Ben c'est évident qu'ils sont concentrés sur le jeu. Puis souvent aussi, on dit les joueurs réservistes qui ne jouent pas. Combien de joueurs qui deviennent des entraîneurs n'ont pas été des grands joueurs dans la Ligue nationale?
C'est vrai. Ah ben, Ken Harlin, là, comme gardien de but, il n'a pas une grande carrière au niveau de gardien de but de la Ligue nationale.
Non.
Sauf qu'il est un flémeux de bon directeur général.
Mm-hmm. Écoute, il y a combien de joueurs, là, à Larbeau, un exemple comme ça.
Ouais.
À Larbeau.
Ouais.
À Larbeau, à l'époque des 6 équipes.
Oui.
Il faisait la navette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale.
C'est ça.
Puis ça l'a pas empêché de gagner 3 Coupes Stanley avec 3 équipes différentes.
Ouais.
Détroit, Chicago, Toronto. Mm. Mais lorsqu'il est arrivé, là, ensuite, il a joué à Saint-Louis, il a pris sa retraite et il est devenu le troisième entraîneur des Islanders. Puis on a vu la suite, là.
Non. Bon, mais écoute, je voulais juste t'en...
C'est des gars qui ont la science infuse.
OK.
C'est des gars, ils connaissent leur affaire.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, j'avais parlé à Denis Potvin, à plusieurs joueurs des Islanders. Lorsqu'il parlait de Al Arbour, hey, c'était pas n'importe qui.
OK.
Là.
Scott Gordon, premier match avec les Flyers comme entraîneur. La question de la soirée, quel a été votre moment marquant dans le monde du sport en 2018? Marc Defois, je t'écoute.
Nos trois équipes sportives professionnelles à Montréal.
Il y en a deux flops puis, ou trois flops.
Écoute, le Canadien n'a pas participé aux séries. Là, on remonte, je parle de la saison dernière.
Oui, c'est ça.
Le Canadien, l'an dernier, ça a été épouvantable. Ouais. Les Alouettes, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que les Alouettes ratent les séries. L'Impact a raté les séries. Ça a été aride. On n'est pas gâtés à Montréal là, depuis quelques années. Je dis quelques années. Depuis plusieurs années. On n'est franchement pas gâtés. Puis cette année, j'ai l'impression qu'on a atteint vraiment, Ron, on a atteint le fond du bali. Écoute, là, toi, dans ton rôle, tous les gens de notre milieu, là, parler du sport à Montréal cette année, c'était pas facile. Parce que c'était toujours du négatif. Puis je pense que les gens, on l'a vu, là, écoute, les gens qui n'en peuvent plus, là, sont tannés, là. Les Alouettes, là, je ne sais pas qu'est-ce qui. Ça regarde pas bien, ça augure pas bien pour l'an prochain. Je comprends pas la décision des Alouettes de continuer à faire confiance à Kevis Reed.
OK.
Moi, j'ai hâte de voir combien il va y avoir de gens dans les gradins en juin prochain au Stade Molson.
OK. Penses-tu que. En conclusion, là, les trois équipes, OK. En conclusion, en 10 secondes, 15 secondes, penses-tu que le Canadien, en 2019. La tendance.
Des séries?
Ben, non, la tendance va être qu'on va reconquérir un petit peu notre auditoire, le Canadien?
Moi, je pense que la saison du Canadien va jouer là, dans les prochaines semaines,
d'ici
à la fin janvier.
OK.
Jusqu'à maintenant, les gens, on est. Ben, regarde bien, les gens, ce qu'on dit, ils sont sympathiques, ils travaillent fort, puis ça patine.
Oui.
Mais les gens sont sous de leur garde. Les gens, regarde, on les encense pas trop.
Okay.
C'est un peu tout le monde. On les encense pas trop parce que on y croit plus ou moins.
Okay.
Puis on se dit qu'en deuxième moitié de saison, à partir du mois de janvier, lorsqu'on va séparer les hommes des enfants, que le Canadien va fléchir puis fera pas ici.
OK.
Donc, moi, dans le cas du Canadien, dans le cas du Canadien, Ron, c'est pas compliqué, c'est au jour le jour.
Oui, c'est ça. Une semaine, on festoie, puis l'autre semaine, on est déprimé comme le calvaire. Ouais, je comprends. Ouais,
après le match d'hier, là, on se dit, ils s'en vont jouer à Denver.
Ben ouais, je comprends.
L'Avalanche, là, très bonne équipe. Ouais. Ensuite, même à Phoenix, jeudi soir, ce sera pas... Là, ils s'en vont jouer 3 matchs en 4 soirs dans l'Ouest.
Ah ouais, c'est ça.
Puis après le match d'hier, là, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, ouf, ça sera pas facile.
C'est ça.
Ça s'annonce pas beau. Écoute, c'est ça qu'on dit, là. Écoute, la semaine il y a quelques semaines, là, ouais. Le Canadien avait gagné, je pense, je sais pas combien de matchs de suite, ou avait connu quand même de bonnes performances. Là, on disait, hey, ils sont étonnants, on les aime, ils sont sympathiques, ils vont peut-être faire des séries. Moi, hier, je vais te confier quelque chose. Si le Canadien avait gagné hier soir, je pensais à écrire une chronique aujourd'hui pour le journal de demain, dans laquelle je me disais, ben, les chances de faire des séries sont là, sont réelles.
Ben, faut que je te laisse là-dessus. Ben j'allais aimer ça lire ça. J'allais aimer ça lire ça. Faut que je te laisse. Je te souhaite des bonnes fêtes, mon chum. Faut que je te laisse.
Toi aussi, Ron, je sais que c'est ta dernière émission ce soir, donc. Ouais. Amuse-toi bien avec ta douce, puis joyeux souhaits à tout le monde.
À tout le monde, toi aussi. Bye bye, merci.